Bonsoir à chacune et à chacun. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre accueil chaleureux. Merci aussi pour votre intérêt pour la Suisse et pour la manière dont on vit la laïcité chez nous. Je me réjouis de vous faire quelque part un petit survol. Je ne serai pas autant complet, autant précis que ce qui vient d'être dit, j'en suis navré, mais je vais essayer de vous faire sentir un petit peu les choses. Comment ça se passe en Suisse? Comment est-ce que la relation entre les pouvoirs publics et le religieux, le fait religieux, est compris sur le territoire de la Confédération helvétique? Alors, pour ce faire, si tu peux passer à la... Ah, non, je peux même y aller tout seul. Hop, magnifique. On va un petit peu remonter dans l'histoire. Très vite, très, très brièvement, parler un petit peu de comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle. Et puis, le parcours a été long, douloureux et sanglant, puisque la Suisse a été marquée par un certain nombre de guerres religieuses qui ont abouti à la solution qu'on connaît actuellement. Et puis, mon idée, ce sera un petit peu de vous montrer comment est-ce que les solutions juridiques qui existent actuellement ont été influencées et marquées par les conflits du XVIe siècle en matière de religion. Ensuite, les choses ne sont pas apaisées avec la naissance de l'État fédéral en 1848. Il y a eu, à la fin du XIXe siècle, un regain d'agressivité, un regain de tension, notamment avec l'Église catholique, ce qu'on a appelé le Kulturkampf. Et puis, tout ceci pour aboutir sur la situation actuelle en 99, où on parle plutôt non pas de laïcité, la Suisse n'est pas un État laïque, mais de neutralité confessionnelle. Voilà. Et puis, en conclusion, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait, dans ce contexte, comprendre cette injonction du Christ de rendre à César ce qui lui appartient. Tout d'abord, j'ai une petite question à vous poser, pour voir si ma référence sera bien comprise. Lesquels parmi vous ont vu l'âge de glace? 1, 2, 3, c'est égal. Alors, je suis rassuré, je vois quand même une majorité d'entre vous. Je vais expliquer. Vous voyez le personnage de Scrat, espèce d'écureuil comme ça, dont la mission dans la quête perpétuelle est de sécuriser ses glands. Il aime les glands. Et il a comme ambition, comme perspective dans la vie, de les planter, de telle sorte à ce qu'il puisse en bénéficier pendant l'hibernation. Et puis, un des gars qui revient tout le temps dans cette série, c'est qu'on voit Scrat qui plante son gland ça, violemment, et ça fait une fente, une autre fente, puis une fente de plus en plus grande, et puis finalement, ça aboutit à des catastrophes, ou à la dérive des continents, ou à des phénomènes qui sont absolument énormes. Eh bien, le Scrat dont je vais vous parler, c'est Luther. Le moine allemand, Luther, en 1517, vous êtes dans une petite ville allemande dont personne ne se souvient du nom, notamment moi, j'en suis navré, il y a 500 ans, et Luther vient et simplement il affiche sur la porte de son église, c'est ce qu'on appelait les 95 thèses, dans lesquelles il critique un certain nombre de problèmes juridiques et de doctrines ecclésiales. C'est rien. C'est une personne dans un endroit qui va et qui met une affiche. Et puis, petite cause, gros effet, ces affiches et ces thèses ont déchiré l'Europe dans des conflits extrêmement meurtriers du XVIe siècle. Et la première guerre religieuse a lieu en Suisse. C'est la première guerre dite de Capelle, puisque vous avez Zwingli, le réformé, qui essaie de convertir d'autres cantons restés fidèles à Rome par la force. Donc, il mobilise une armée. Et puis, les Zurichois vont attaquer un autre canton, d'autres cantons catholiques à Capelle. Et puis, si vous voulez, pour vous imaginer, il y a les deux armées qui se font face les unes aux autres et qui s'observent. Et puis, la nature aidant, ils commencent à avoir faim. Et comme c'est une guerre religieuse importante, on est parti un petit peu dans la précipitation et personne n'avait pensé au casse-croûte. C'est une histoire authentique. Hein. Et on se retrouve, on se regarde et on a faim. Puis il se trouve que là, il y a un paysan qui a un énorme chaudron comme ça et qui pose son chaudron sur la ligne de démarcation entre les deux armées. Et les armées viennent prendre des bouts de pain, un quignon de pain qu'on a trouvé, tremper les bouts de pain dans l'énorme chaudron. Alors, pour illustrer ça, vous avez une représentation du peintre en Caire. On voit un petit peu les deux armées, les rouges et les bleus, le gros chaudron au milieu, et chacun va tremper son bout de pain dedans. Et puis il y en a un, si vous regardez un petit peu au centre, qui dépasse, qui va tremper au-delà de la ligne de démarcation. On lui tape sur la main en rigolant, et puis on se quitte copains. Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient déjà mangé de la fondue, vous savez qu'après une fondue, on a envie de tout sauf de se battre ou de bouger. Et c'est authentique. Les armées sont reparties les unes chez les autres, et la situation est restée là. Ça aurait pu être très drôle. Malheureusement, il y a eu d'autres guerres par la suite, et la fondue n'a pas eu le pouvoir de prévenir les conflits européens. Il y a eu notamment la deuxième guerre de Capel, là où Zwingli a été tué, et qui a mis fin plus ou moins à la situation en Suisse. Mais l'Europe est vraiment déchirée. Gardez cette image très académique de Scrat. C'est vraiment, l'Europe est déchirée dans un conflit au XVIe siècle entre les tenants de la réforme et puis ceux de l'ancien ordre. Ce conflit se termine par la paix de Westphalie en 1648 et par une idée toute simple finalement. Je fais encore une deuxième parenthèse pour dire que les avocats, on aime bien exprimer des idées toutes simples avec des citations latines, parce que ça nous donne l'air d'être très intelligents, quand bien même on exprime une réalité qui est somme toute triviale. Le principe cuius regio et ius religio signifie simplement chacun fait comme il veut chez lui. Et si je le dis en latin, ça sonne mieux. Donc, c'est, si vous voulez, le méta-principe. Le principe de base qui sous-tend la neutralité ou la paix confessionnelle en Suisse, cuius regio et ius religio, les cantons catholiques font comme ils veulent, les cantons protestants font comme ils l'entendent, et on ne se tape pas dessus. C'est un petit peu ça l'idée. C'est une idée qui a tenu encore quelques siècles, jusqu'à la guerre du Sonderbund en 1847, où les cantons réformés ont à nouveau essayé d'imposer un certain nombre de conceptions à leurs cantons catholiques, qui se sont regroupés dans une ligue qu'on appelait la ligue du Sonderbund pour se défendre. Et c'est la dernière guerre civile en fait suisse de 1847 qui a fait une centaine de morts à peu près. Et le résultat de cette guerre, c'est la victoire des cantons réformés et la création de l'État fédéral avec la première constitution, la naissance de l'État suisse, la Confédération suisse en tant qu'État moderne. Vous trouvez à ce moment-là dans cette constitution les marques ou les prémices ou les règles, si vous voulez, que les Suisses se sont données pour gérer leurs problèmes et leurs tensions religieuses. Ce que j'aimerais un petit peu vite regarder avec vous, il y aura pas mal d'articles juridiques. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment les choses fonctionnent un peu dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la Suisse comme d'un État laïque, c'est que dans la Constitution de 1848, il y a un préambule, donc un texte qu'on met tout en avant de la Constitution, qui dit « Au nom de Dieu Tout-Puissant, la Confédération suisse, voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, a adopté la constitution fédérale suivante. » Et là, vous trouvez cette fameuse idée « cuius regio et ius religio ». Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale. Et comme tel, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. Donc, cette idée d'éviter quelque part une forme d'impérialisme religieux, chacun fait ce qu'il veut comme il veut chez lui, avec certaines cautelles et avec certaines limites que nous allons aborder maintenant. Donc cette vision aussi de liberté qu'a rappelé Nancy, le libre exercice des cultes de confession chrétienne est garanti dans toute la Confédération. Et puis, toutefois, les cantons et la Confédération pourront toujours prendre des mesures propres au maintien de l'ordre public, donc cette notion aussi d'ordre public nécessaire pour éviter les conflits et les tensions religieuses. Et finalement, l'ordre des jésuites est interdit dans surtout le territoire suisse. C'est lié en fait à une querelle. En fait, si vous voulez, l'ordre des jésuites a voulu enseigner dans le canton de Lucerne les écoles primaires, et ça a été la cause de la guerre du Sonderbund, d'où l'interdiction des jésuites. Puis là, on retrouve un petit peu ces dimensions de la laïcité dont on a parlé avant. On voit que la laïcité, il y a une idée vraiment de liberté, liberté personnelle. On a aussi cette liberté qui a besoin de certaines limites, l'ordre public, l'idée de simplement de se donner des règles pour que chacun puisse vivre au mieux dans ses croyances et ce qu'il pense. Donc ça, c'était 1848. Puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu le premier concile du Vatican, dans la deuxième partie du 19e siècle, un concile très agressif qui a dit simplement on ne peut pas être catholique et libéral. Il faut choisir. Et puis, il y a eu une scission, peut-être que vous savez, entre les catholiques chrétiens, en tout cas en Suisse, et les catholiques romains. Donc, les catholiques chrétiens se distançant de cette doctrine qui était assez agressive. En réaction, il y a eu une révision de la Constitution dans un sens vraiment anticlérical, dirigé cette fois-ci contre le pouvoir romain, où il y a eu un besoin, si vous voulez, de s'affirmer par rapport à ses prétentions. Donc, ça a donné le nouvel article 49, la liberté de conscience, croyance est inviolable. Donc là, vous voyez, inviolable, on insiste sur le fait que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je vois plus. Ah oui, c'est bon, merci. Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux, ou d'être sanctionné parce qu'il n'adhère pas à une opinion religieuse. Et finalement, on voit quelque part cette idée fondamentale qui est de dire la liberté, elle commence déjà pour l'individu. Les gens ont le droit de suivre les croyances qu'ils estiment les plus justes et les plus adaptées. Et puis, on ne peut pas les forcer à croire quelque chose sans quoi ils n'adhèrent pas. Le libre exercice des cultes est également garanti, là aussi sous réserve de l'ordre public. Vous voyez également que il y a une disposition qui vise spécifiquement l'impérialisme romain, donc l'érection de nouveaux évêchés est soumise à l'autorisation et l'approbation de la Confédération. Petite blague, vous pensez que c'est resté combien de temps en vigueur cette histoire? Jusqu'en 2003. Donc, quand je dis qu'on met du temps en Suisse, on met vraiment du temps. L'ordre des jésuites est toujours interdit. Bon, cette disposition a été révoquée en 1977, donc on a été un petit peu plus rapide. Interdit de fonder des nouveaux couvents. Et puis, chose extrêmement importante en lien avec la laïcité, l'état civil et la tenue des registres relèvent des autorités étatiques. C'est important puisque si vous tenez les états civils, vous tenez la vie des gens, vous tenez la vie, vous tenez leur mort. Si vous n'avez pas les certificats de baptême, avant on voyait les gens, vous n'avez pas de certificat de baptême, on ne vous inscrit pas. Si on n'inscrit pas des enfants, ils ne peuvent pas succéder, il y a des problèmes d'ordre de succession. Donc l'idée, c'est là aussi de libérer quelque part l'individu pour qu'il puisse prendre les choix qui lui conviennent et qu'il n'y ait pas de sanctions, pas de pouvoir, pas d'emprise sur lui, ce qui était le cas durant les siècles précédents. De même, le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération. L'idée, c'était qu'il puisse y avoir, si on veut, des mariages mixtes et que les gens ne doivent pas se convertir pour pouvoir se marier. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'ensemble des grandes règles fédérales, le cadre qui est donné, dans lequel les cantons ont le droit de s'organiser et de faire un peu comme ils l'entendent. Vous avez dans certains cantons catholiques, par exemple, des crucifix, canton de Lucerne, c'est des crucifix dans les classes. Canton de Neuchâtel, par exemple, vous avez un culte lors de l'instauration des nouvelles autorités. D'abord un culte, et puis après, les autorités prêtent serment. D'autres cantons, canton de Genève, est beaucoup plus laïque, dans un sens proche de la réalité française. Et puis, sous ces réserves, si vous voulez, ces limites qui sont données, il y a une certaine liberté pour les uns et les autres de s'organiser. Et là, au milieu, vous souvenez de ce fameux préambule. J'aimerais un petit peu revenir là-dessus. Il y a eu une autre révision totale de la Constitution fédérale qui a commencé en 1964, où un prof de droit dit « ce serait bien qu'on révise la Constitution fédérale ». Les raisons pour cette révision, c'était de dire que les gens avaient l'impression que le pouvoir échappait, qu'il devenait technocratique et qu'il y avait un manque de démocratie. C'est marrant comme on peut dire les mêmes choses sur tout le temps. Et il préconisait une révision totale de la Constitution fédérale pour essayer de clarifier le débat public, quelque part, de réviser, rénover les institutions. Il est suivi par deux parlementaires, Obrecht et Dürrenmatt, et par une très très longue gestation, qui ont abouti au projet final en 1999. Donc, vous voyez, on a commencé en 1964, pour adopter la Constitution en 1999. Donc on a eu le temps de réfléchir, de penser, et de réfléchir, et de re-réfléchir, pour aboutir à notre projet. Mais, dans le cadre de ce projet, vous vous souvenez de ce fameux préambule, au nom du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on allait laisser ce préambule dans la Constitution? La question était légitime, puisque qu'est-ce que ce préambule peut bien vouloir signifier pour des personnes qui sont athées ou agnostiques et qui ne se reconnaissent pas dans ce préambule? Je sens un suspense insoutenable que je vais lever d'ici immédiatement. Donc le préambule a été conservé dans la nouvelle constitution de 1999 et je vous en montre la teneur. Il est même plus gros. Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assurer leur responsabilité envers les générations futures, sachant que seul est libre celui qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrête la Constitution que voici. Texte magnifique, on pourrait le prendre comme base de sermon un dimanche matin, qui a été écrit d'ailleurs par un chrétien, un écrivain, Adolf Munk. Et puis, lors des discussions relatives comme je vous ai dit qu'on a eu le temps de parler, vous savez, un des points qui a choqué les chrétiens dans cette histoire, c'était l'épithète tout-puissant. Parce qu'après la Shoah, après les monstruosités dont l'histoire de l'humanité témoigne encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler d'un Dieu tout-puissant? Et puis il y a des membres, des théologiens qui ont pris position pour expliquer qu'on ne pouvait pas laisser tout-puissant dans ce contexte-là, puisqu'il fallait un petit peu penser la divinité d'une autre façon. Et ce qui est magnifique, particulièrement quand on pense à l'histoire constitutionnelle suisse, c'est que ça aurait pu soulever des vagues et des vagues de réflexions encore plus profondes, mais les Suisses sont quand même relativement pragmatiques, et le conseiller fédéral Fourclair, qui était en charge de ce projet, a dit non, mais on va laisser tout puissant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit: si on commence notre texte par « Au nom de Dieu » prononcé avec l'accent genevois, ça sera vraiment pas top. Et c'est authentique. Alors, grâce à ce juron qui existe, qui est répandu, on ne voulait pas commencer la Constitution avec un juron, donc on a laissé à Dieu sa toute puissance. On peut discuter, hein. Mais finalement, moi, je vis très bien avec. Et après, lors des débats auprès de ce Parlement, la question de cette place de préambule a à nouveau été posée. Et la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment ce préambule, et c'est particulièrement cette invocatio qui place la Confédération sous l'autorité divine. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est un conseiller fédéral catholique, Arnold Kohler, qui est venu expliquer pourquoi est-ce qu'il pensait que c'était bien de laisser ce préambule. Donc on est en 1999, dans la Constitution, et la raison principale qui développe, c'est l'idée qu'il faut rappeler en tête de notre Constitution que l'État n'est pas tout, et que l'État est une création humaine, et qu'elle a une finalité. Et que par conséquent, il est heureux de commencer par rappeler cette finalité et les limites propres à l'activité étatique. Quand on y pense, c'est extrêmement profond et je pense que c'est extrêmement juste. Alors c'est vrai qu'il y a eu des guerres de religion qui ont été sanglantes au 16e, au 15e, 16e siècle, 17e siècle. Mais quand l'État devient tout, quand l'État devient totalitaire, l'État devient fasciste, vous avez aussi des problèmes, vous avez aussi des abus, dont témoigne notamment le livre de Daniel, où on voit un empereur qui se prend tout puissant et que Dieu ramène, abaisse, qui doit brouter de l'herbe, si vous vous souvenez, pendant 3 ans, pour rappeler que c'est peut-être l'empereur, mais quand même, il y a un pouvoir, il y a quelque chose d'au-dessus, de supérieur. Et l'idée, je pense que c'est aussi un argument qui peut toucher les personnes qui ne partagent pas nos convictions, simplement pour rappeler qu'il y a des valeurs transcendantes auxquelles on croit et qui dépassent simplement celles de l'ordre politique. Et je pense qu'il est important de les rappeler. J'ajoute que le préambule ne s'inscrit pas dans la lutte entre catholiques et réformés, il a été rédigé d'une façon extrêmement neutre, et qu'il ouvre quelque part la Constitution sur des valeurs supérieures qui donnent un sens à la Confédération helvétique, et qui permettent finalement à des communautés différentes de vivre ensemble. C'est vrai que c'est important. Souvent, en tant que juriste, on méprise un petit peu ces textes symboliques ou les valeurs qu'elles représentent, mais c'est des valeurs qui sont fédératrices, qui assurent une bonne cohésion sociale. Et finalement, donc, que retenir de tout ça ? C'est que, bon, du point de vue de la Constitution fédérale, l'État suisse n'est pas laïque, quand bien même vous avez des cantons laïques, canton de Genève et canton de Neuchâtel, mais neutres confessionnellement. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque part un arbitre, les pouvoirs publics qui permettent à tout et à chacun de jouir et bénéficier de sa liberté dans le respect de la liberté des autres. La relation entre les cantons et les églises, comme je vous l'ai dit, relève de la souveraineté cantonale et cette invocation à sa place pour rappeler la finitude de toute chose et la finitude spécialement de l'État. Et finalement, on peut imaginer que quand le Christ, en tout cas je me sens très à l'aise de le dire, nous appelle à rendre à César ce qui lui appartient, à rendre à Dieu ce qui lui appartient également, c'est bien, je pense, d'approfondir cette distinction et de créer cette limite, même si après une longue thèse, 500 pages, c'est une limite qu'on n'a pas fini d'approfondir et qu'on n'a pas fini de creuser. Je vous remercie pour votre attention.